Alors, on continue avec un peu d'éducatif. Donc, j'ai des gens qui me disent de plus en plus deux points, d'accord? Bien précis, en m'expliquant que le luxe est de la nouvelle tech. Ce dont je suis d'accord et pas d'accord à la fois, mais on va passer là-dessus. L'idée c'est quoi? L'idée c'est que, entre guillemets, la tech ne peut pas soutenir sa croissance alors que le luxe peut soutenir sa croissance. Alors déjà, je me pose en faux là-dessus. C'est vrai qu'il y a une chose sur laquelle le luxe a de l'avantage sur la tech, c'est que la tech, pour que la croissance se soutienne, il faut qu'il y ait de plus en plus d'habitants sur Terre. Plus il y a d'habitants, plus il y a de publicité à faire, plus vous captez de revenus. C'est assez basique, d'accord? Donc moins il y a d'habitants, plus il faut soit augmenter le prix de la publicité, soit augmenter le temps passé sur les écrans. D'accord? C'est assez basique. Et surtout le temps passé sur les écrans, mais sur le support du GAFAM en question. Donc si c'est Google, c'est sur Google. Si c'est Facebook, c'est sur Facebook, etc. Le luxe, effectivement, a un CAGR depuis quelques années qui est très très fort. Ce que beaucoup d'analystes nous disent, c'est qu'il y a deux conjonctions de facteurs. Il y a de plus en plus de millionnaires, parce que comme on rentre, pour ceux qui ont suivi le live de vendredi, dans une ère où, effectivement, on demande aux gens d'être de plus en plus productifs, d'accord? On augmente considérablement le nombre de personnes qui gagnent bien leur vie. Donc, même si la population mondiale faiblit, le nombre d'acheteurs final de sacs Hermès, LVMH ou Chanel augmente. Parce que le nombre de gens qui gagnent un salaire supérieur à 10 000 euros et donc ont la possibilité de se payer ce sac-là, il augmente de façon considérable. C'est dû à énormément de choses. Bon, ça, c'est vrai. Mais attention, attention, je pense que c'est pas si simple que ça et que le gros du chemin a été fait. Fondamentalement, je pense que le gros du chemin était dans les pays émergents. Et que le gros de ce chemin a été fait. Et que depuis 2-3 ans, ce qui se passe et qui est très très intéressant et qui nous montre que c'est très difficile d'anticiper certains cycles et certaines choses, c'est que l'élasticité prix, elle est testée dans le métier du luxe. C'est-à-dire que tout le monde augmente le prix de ses produits. D'accord? Et vous savez, nous chez Agora, on est sur les Champs-Élysées. Donc à chaque fois que je monte au bureau, je reprends une petite dose, je vais dans tous les magasins de luxe des Champs-Élysées et je regarde un peu les prix. Je regarde un peu la typologie de consommateurs, ce genre de choses. Et donc après, je suis capable de me faire une idée. Parce que je vous le dis toujours, quand vous voulez investir dans une boîte, quand c'est une société entre guillemets de produits pour le B2C, hein, pour le B2B c'est autre chose, mais pour le B2C, n'hésitez pas à aller dedans. Si vous me dites que vous voulez investir dans la Fnac, à chaque fois que vous allez dans une ville et qu'il y a une Fnac, vous passez 1 h 30 dedans. Et vous allez voir les trucs qui marchent, les trucs qui marchent pas. Et si vous le faites assez souvent, c'est-à-dire que vous répétez l'opération sur 2-3 ans, vous voyez l'évolution de la société. Et donc vous êtes capable d'anticiper certaines choses que vous ne verrez pas en regardant juste les publications. D'accord? Donc voilà. Donc effectivement, il y a une forte hausse des prix dans le luxe. Et les consommatrices et les consommateurs du luxe, mais ils continuent à consommer. Parce que pour eux, un sac Hermès, ça a plus de valeur que la valeur à laquelle on leur vendait. La question, c'est de vous dire jusqu'où ça peut aller. Et ça, j'ai des grandes questions. J'ai des grandes questions parce que dans certaines données sur Internet, dans certaines visions sur certains marchés en Asie et tout ça, j'ai l'impression qu'on atteint la limite. J'ai l'impression qu'on est arrivé au moment où, en fait, il y en a quand même beaucoup qui ont consommé malgré l'augmentation des prix parce que les choses devenaient plus rares, ce genre de choses, et puis parce qu'il y avait eu la crise et donc il fallait se faire plaisir. Et j'ai l'impression qu'on commence à revoir des données qui montrent qu'augmenter les prix de x2, x3, ça va plus forcément être la même chose qu'avant, et ça va être un petit peu compliqué sur le cycle qui arrive. Et attention, parce que quand vous regardez Hermès, LVMH, alors, pour LVMH, c'est un peu moins vrai, pour Kering aussi, mais c'est plutôt vrai pour des choses comme Chanel, Hermès, des marques un peu plus petites. L'augmentation de prix a été un driver phénoménal de la croissance des entreprises ces 10 dernières années. Donc si elle s'arrête, vous pourriez avoir la même chose que sur Facebook, c'est-à-dire le décalage et la baisse très violent. Pourquoi? Parce qu'ils publieraient des mauvais chiffres d'affaires et qu'entre guillemets, les gens se diraient, mais attention, sur Hermès, il n'y a plus de capacité d'augmenter les prix, tant on l'avait pas vu, au même titre qu'on n'avait pas vu que Facebook allait avoir ses utilisateurs qui allaient plafonner ou un peu diminuer. Donc attention, il faut bien vous dire, et là je vois trop souvent des analystes, surtout en Europe, qui nous disent la nouvelle tech, c'est le luxe, la tech, c'est fini, ce genre de choses. Attention, il faut vraiment bien comprendre le système. Ça vous montre aussi, et ça vous explique aussi pourquoi est-ce que Facebook a mal publié. Parce qu'en fait, Facebook, comme je vous l'ai expliqué, ils sont touchés par le fait que, entre guillemets, Apple a décidé d'être plus dur sur le partage des informations qu'il fait. Pour bien cibler une publicité, il faut beaucoup connaître l'utilisateur. Plus vous connaissez, plus vous ciblez bien une publicité, plus vous avez de chances de conversion, donc plus la publicité vaut cher. C'est assez basique, d'accord? L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que depuis quelque temps, il se passe un phénomène assez intéressant, c'est-à-dire que pour que vos annonceurs viennent chez vous et payent une publicité assez chère, il faut qu'ils aient un certain ROI. Quand Apple a mis en place ces mesures, le ROI des acteurs est descendu de manière très violente sur Facebook et sur d'autres services. À ce moment-là, vous avez deux choix. Soit vous continuez à mettre les prix de vos publicités au même endroit, avec le risque que les annonceurs partent en trouvant que le ROI est trop bas. Et vous faites ça en vous disant que vous allez très rapidement arriver à faire remonter le ROI en amenant des nouvelles manières de retargeter les utilisateurs, ce qui n'est pas facile quand vous appelez Facebook. Pas facile du tout. Soit vous baissez le prix de vos publicités et donc forcément ça se retrouve dans votre chiffre d'affaires et dans votre marge. Et c'est ce qui s'est passé. Mais c'est aussi ce qui s'est passé sur Tencent et tout. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. C'est que dans le luxe, vous avez une hausse du nombre de consommateurs et une hausse des prix. Je pense que aussi bien l'une que l'autre arrive assez proche de sa limite dans les 1 à 2 ans qui arrivent. D'accord? Dans la tech, la hausse des prix et la hausse des consommateurs, elle est finie depuis la fin de la crise. Parce que la crise a fait amener beaucoup de gens sur le support informatique. Beaucoup de gens est allé là-dessus. Maintenant que la crise est passée, on digère un petit peu. Les gens retournent, entre guillemets, dans leur vie normale. Donc, ils passent moins de temps devant les écrans. Donc, c'est moins intéressant pour ces acteurs-là. Et vous voyez bien que malgré le fait qu'il y ait moins d'acteurs, enfin, il y ait moins de gens qui rentrent dans le marché et qui passent du temps devant leur ordinateur et que les prix soient bas, la plupart des GAFA, même ceux qui sont liés à la pub, ont quand même publié les chiffres d'affaires en hausse. Pour moi, ça montre la capacité de ces acteurs à imprimer plus de publicité dans leurs actifs. Et pourquoi est-ce que ces acteurs ont la capacité d'imprimer plus de publicité? Parce que je pense que les gens n'imaginent pas à quel point les GAFAM sont sous-monétisés. Sous-monétisés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le luxe, absolument tout est vendu cher. Vous achetez un sac, ça vaut cher. Vous achetez des gants, ça vaut cher. Il y a assez peu de moyens, il y a assez peu d'endroits dans le luxe quand vous allez chez LVMH où vous vous dites, tiens, là, il faudrait qu'ils montent les prix. Ça, c'est un truc qui pourrait vendre super cher et ils le vendent pas cher. C'est très peu fréquent. D'accord? Par contre, vous allez chez Facebook, vous pouvez tout de suite imaginer là où déjà ils ont pas mis de la publicité. Vous ouvrez WhatsApp, il n'y a pas de publicité. Ou il y a très peu de publicité. Il y a 1 milliard d'utilisateurs sur WhatsApp. Même s'ils mettaient un tout petit encart publicitaire, une fois toutes les 3 heures passées sur Snapchat, sur WhatsApp, en bas, sans que ça soit trop visible, bah, ça rapporte énormément d'argent. Parce que vous multipliez par le nombre d'utilisateurs, ce genre de choses, et c'est pas monétisé. D'accord? Vous avez énormément de parcours de monétisation qui sont pas faits sur Facebook. Et c'est la même chose chez Google, c'est la même chose chez Amazon et ce genre de choses. D'accord? Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il va falloir vraiment comprendre. Moi, je pense que les industriels de la tech ont énormément de potentiel là-dessus.
de travail, et ça, on le sous-estime. Et on sous-estime aussi autre chose, c'est que je pense que justement, cette fonction prix de la publicité, elle a été en leur défaveur ce trimestre-là, surtout pour ceux qui sont dépendants de ce que Apple leur transmettait comme données, donc ceux qui sont présents sur mobile et qui détiennent pas l'operating system mobile, donc en gros, bah tout le monde à part Apple et Google, c'est pour ça que Google a si bien publié par rapport aux autres sur l'aspect publicitaire, mais vous voyez la même problématique partout, hein. Vous avez la même chez Tencent, vous avez la même chez Facebook, enfin c'est un truc qui est un peu global. Alors après vous avez deux trois plateformes qui ont pas ces problématiques-là, c'est des plateformes qui avaient des revenus publicitaires par utilisateur qui était très basse, comme Snapchat, Pinterest, ce genre de choses. Et du coup, là où Facebook gagne entre 8 et 12 dollars par utilisateur, forcément passer de 12 à 14, ça implique de faire des travaux sur la pub qui sont considérables. Quand Snapchat était sur 0,50 centimes par utilisateur sur certaines régions, vous rendez bien compte que passer de 0,50 centimes à 1,50 $, c'est plus facile, même avec une publicité où vous avez plus de mal à targeter les individus ou ce genre de choses. Parce qu'en fait, Snapchat, Pinterest et tout, ils sont pas dans le ROI optimal, mais déjà ils sont dans saturer leurs espaces de monétisation, ce qui n'est pas encore le cas. Parce qu'ils n'ont pas assez de publicitaires sur leur plateforme pour saturer leurs espaces publicitaires. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Donc c'était juste une réflexion pour vous dire que c'est important de comprendre le marché, de comprendre le luxe vs la tech, de comprendre un peu ses facteurs prix. Et moi, je pense que le coût d'Apple est un coût qui va grandement mettre en difficulté Facebook, Tencent pendant 2, 3, 4 trimestres. Mais je pense qu'après, on va retourner sur quelque chose de normal et que plus on va vers une dépense qui est en ligne, plus la publicité en ligne va avoir de valeur. Parce que plus c'est la publicité qui va être la plus à même de vous faire acheter un produit. Et donc plus vous êtes proche d'une publicité qui convertit en un achat, plus cette publicité a de la valeur. Et je pense que ça, on n'est pas encore arrivé à un moment où la majorité des gens consomment en ligne et où on est arrivé au bout, où on ne peut pas optimiser plus la conversion de la publicité en ligne vers un achat. On a déjà posté dans le live de vendredi, il y avait le taux de consommation online et offline, c'est-à-dire retail classique et sur Internet. Vous voyez qu'on était encore au tout début de la transformation sur Internet. Donc ça me fait dire qu'il y a encore beaucoup de place pour les GAFAM à la croissance. C'est pour ça que je pense que l'idée que ces GAFAM sont dans une croissance limitée à 10-15 ans, je pense qu'elle est fausse. Totalement fausse. Par contre, je pense que c'est beaucoup plus compliqué de dire que les géants du luxe vont maintenir leur croissance actuelle pendant 10-15 ans. Ça, c'est plus compliqué. Je pense qu'ils sont capables de le faire encore 4-5 ans, mais je pense que le faire au-delà de 2026-27, ça va être compliqué pour eux. Et ça nécessite qu'il y ait des pays qui prennent le relais. Et là, on revient sur des aspects politiques. Comme je vous le disais, je voyais plus ces prises de conscience politique vers les années 2030. C'est le développement de l'Amérique du Sud et le développement de l'Afrique qui donnerait un nouveau pool de consommateurs qui seraient capables de consommer pour le luxe. Et ça, je le vois plus en 2030. Donc je pense que pour l'industrie du luxe, la période 2026-2030 va être assez compliquée.